Bonjour tout le monde, bienvenue à la présentation numéro 3 sur création vs évolution. Je me présente, je m'appelle Gauthier Nathalie. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les dangers des théories darwiniennes. Et il y a deux types de théories d'évolution qu'on appelle darwiniennes. Et ensuite, l'alternative, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors j'ai mis une citation que je trouve particulièrement intéressante de quelqu'un qui est très connu, qui dit « J'étais un jeune homme avec des idées mal informées. J'ai fait des suggestions, me posant toutes sortes de questions tout le temps, et à mon grand étonnement, les idées ont pris comme une traînée de poudre. Les gens ont en fait une religion. » Alors la question c'est, qui a dit ça? Est-ce que quelqu'un a une idée de la personne qui a pu... Ouais. Bien. C'est quand même intéressant de voir que lui-même était étonné de voir que ses idées ont pris comme une traînée de poudre et que les gens se sont appropriés les idées et en ont fait une religion. Définition. Qu'est-ce que la théorie de l'évolution et ensuite qu'est-ce que la théorie de l'évolution théiste? Théorie de l'évolution. En biologie, l'évolution désigne la transformation des espèces vivantes qui se manifestent par des changements de leur caractère génétique au cours des générations. Donc à ce moment-là, on peut passer d'un organisme unicellulaire à un poisson, puis à un singe, puis à un être humain. Qu'est-ce que la théorie de l'évolution théiste? Alors, les créationnistes évolutionnistes adhèrent à la thèse générale selon laquelle certains, voire tous les enseignements classiques sur Dieu et la création sont compatibles avec tous ou presque tous les enseignements du paradigme évolutionniste. Qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme, c'est juste une façon de voir les choses, c'est une façon de voir le monde. Donc, ce sont des gens qui adhèrent aux théories de l'évolution, mais en même temps, ils veulent croire en Dieu. Donc, ils rassemblent tout en même temps. Alors voilà, c'est juste schématisé. Théorie de l'évolution de la matière, les facteurs d'évolution, chance, nécessité, mutation, isolation plus mort, et ensuite sur de longues périodes de temps. Théorie de l'évolution théiste, la même chose, sauf qu'on rajoute le facteur Dieu à la fin. Maintenant, les dangers. Alors, le premier danger, c'est de nier sa culpabilité. Quand on fait une erreur, c'est pas ma faute. Alors, avant, on disait que c'était le diable. Certaines dénominations disent que si nous péchons, c'est parce que nous sommes possédés du démon. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas notre faute. Maintenant, certaines personnes disent que c'est à cause des gènes. Et c'est le cas pour l'adultère. Par exemple, chez les hommes, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est naturel pour un homme de tromper sa femme. Pourquoi? Parce qu'il ne fait qu'assouvir des besoins darwiniens de perpétrer sa race. Chez les femmes, je trouve ça un peu plus drôle. L'adultère chez les femmes trouverait aussi des raisons darwiniennes. Pourquoi? Parce que les femmes de l'époque préhistorique, elles se choisissaient un mâle principal avec lequel elles faisaient des enfants. Mais en allant chercher de la nourriture pour sa famille, sur le chemin, elles s'en trouvaient d'autres mâles, qu'on appelle des mâles secondaires. Et donc, avec lesquels elles pouvaient faire des enfants aussi. Et c'était mieux parce qu'à ce moment-là, ça agrandissait la variété du pool génétique de sa lignée. En même temps, elle se rendait compte que les femmes qui avaient plus de mâles avaient plus de protection, plus de ressources, plus de nourriture. Donc voilà, c'est pour, d'après les évolutionnistes, si les femmes peuvent être adultères maintenant, c'est parce que dans la préhistoire, c'était utile d'être comme ça. Donc, si on pense comme ça, on réduit l'être humain à une pile de cellules. C'est juste des gènes plus des substances chimiques. Ce qui fait que c'est pas sa faute s'il est comme ça. Et donc, si on pense de cette manière-là, l'être humain ne pêche plus. Et donc, il n'a plus besoin de sauveur. La Bible dit que Jésus a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Donc à ce moment-là, si on pense qu'on adhère aux théories de l'évolution, donc on caduque le fait que Dieu soit mort pour nous. Que Jésus soit mort pour nous. Continue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du darwinisme social. Non? Tant mieux. Une fois que le livre de Darwin, les origines de l'espèce, est sorti, les idées ont été rapidement acceptées par beaucoup de personnes et on s'est rendu compte qu'il y a eu des évolutions et qu'elles ont été adaptées aux sciences sociales. Donc, juste un peu d'histoire, les débuts. Une personne du nom de Herbert Spencer, à partir des écrits de Darwin, suggère que la société, tout comme une espèce animale, doit éliminer ses éléments faibles pour rester en santé. Toujours dans l'idée de la survie du plus apte. Il est donc logique et utile pour une société saine d'éliminer d'elle-même les improductifs indésirables. Alors, qu'est-ce qu'un improductif indésirable? C'est un paresseux, un pauvre, un malade, mental ou physique, n'importe quoi. Donc la pauvreté est une preuve d'un état d'infériorité. Ainsi, tous les mécanismes d'aide sociale aux personnes défavorisées doivent être contenus et se limiter à la charité individuelle afin de ne pas entraver la compétition entre individus. La compétition étant génératrice de progrès de la société. Donc tout ce qu'on appelle le SMIC en France, c'est donner par exemple une somme d'argent pour les personnes qui sont au chômage. Donc si on applique le darwinisme social, il faut éviter ça, parce que ça empêche le progrès de la société. Ensuite, ça a continué avec Francis Galton, qui est le cousin de Darwin, qui a repris les idées de Spencer, mais en les radicalisant, en les rendant encore plus exagérés. Et c'est ce qui a donné la naissance de l'eugénisme. Les mécanismes d'aide aux défavorisés sont considérés comme une entrave à la sélection naturelle. Ces mécanismes favoriseraient les unions entre éléments aptes et inaptes, ce qui entraînerait une dégénérescence de la race humaine. Il faut donc pratiquer une sélection artificielle de la société pour mettre un frein à la reproduction des inaptes, des improductifs. La disparition des faibles permet d'alléger les fardeaux des plus forts. Donc, on se rend compte à quel point ça peut être dangereux d'adhérer aux théories de l'évolution. Ça peut aller vraiment très, très loin. Et donc, le paroxysme, l'apogée du darwinisme social, c'est quand on les retrouve dans les théories nazies. Donc, voici l'arme de l'eugénisme. On peut voir les différents champs, peut-être que vous ne voyez pas, mais au niveau des racines, on voit les différents champs de connaissances de l'être humain. On voit la biologie, la génétique, la psychologie, l'anthropologie, la généalogie, etc. Ce sont tous les champs de connaissances de l'être humain qui peuvent être utilisés pour faire ce qu'on appelle de la sélection artificielle. Donc là, on peut penser, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la stérilisation forcée de certaines ethnies, ben ça vient de là. Apparemment, aux États-Unis, aux alentours des années 1930, ce qui s'est passé, c'est que l'élite, les plus riches, ont commencé à essayer d'éliminer les plus faibles en appliquant des génocides plus ou moins silencieux et la stérilisation forcée. Voilà. Il est écrit dans la Bible que dans Matthieu 11, verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Donc, c'est quand même dommage d'échanger ce que la Bible nous promet, ce que Jésus nous promet pour des théories comme celle de l'évolution. Encore notre verset, Jean 13, verset 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » D'autres courants de pensée darwiniens, on a le marxisme, le nazisme, l'hédonisme, ainsi que le malthusianisme. Alors le malthusianisme, ça a été inventé par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Malthus, qui était un économiste qui a voulu imposer ce qu'on appelle encore la stérilisation forcée. je vais parler de l'hédonisme et du nazisme. Donc le nazisme, plutôt mettre des citations, c'est peut-être plus simple, d'Adolf Hitler, qui dit « Si je peux accepter un commandement divin, c'est celui-là, tu préserveras l'espèce. La vie de l'individu ne doit pas être fixée à un prix trop élevé. Si l'individu est important aux yeux de la nature prendrait soin de le conserver. Parmi les millions d'œufs qu'une mouche pond, très peu sont éclos et pourtant la race des mouches prospère. » Je trouve ça fort. La vie humaine n'a pas de prix, ça ne vaut rien. Il la compare même à des œufs de mouche, à une espèce de mouche. Ensuite, les Allemands sont de la race supérieure, destinée à un avenir évolutif glorieux. Pour cette raison, il était essentiel que les Juifs soient séparés, sinon les mariages mixtes auront lieu. Si cela devait arriver, tous les efforts de la nature pour établir un stade évolutif supérieur seront rendus vains. L'hédonisme. Alors, cette personne s'appelle Christopher Hitchens. C'est un athée très 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 connu. C'est un des plus connus. Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, il y a comme un problème au niveau de ses dents. Pourquoi ? Parce que depuis, il a toujours adhéré à l'athéisme. Et depuis qu'il est très très jeune, il s'est toujours adonné à tous les plaisirs qu'on peut trouver sur le monde, sans retenue. Fumé, beaucoup bu, beaucoup mangé. Et maintenant, depuis 2 ans, peut-être 1 an, il a atteint du cancer de l'œsophage et il lui dit lui-même que c'est à cause du fait qu'il ne s'est jamais retenu de tous les plaisirs du monde. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Quand on meurt, il n'y a plus rien après, il n'y a plus de morale. Donc autant en profiter à fond. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, 27, 18 à 20, « C'est pourquoi, fuyez les unions illégitimes, tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous ? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » La Bible, Jésus, nous apprend à nous aimer, nous apprend à accepter la valeur que l'on a. Les théories de l'évolution, on rejette tout cela. Un être humain, ce n'est qu'une pile de cellules, et pas plus que ça. Moi, quand j'étais à l'école, j'ai vu ce dessin. C'était dans mon livre de biologie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est totalement faux. Ça a été fait par quelqu'un qui s'appelle Haeckel, fait aux alentours de 1910, parce que lui a senti la théorie qui dit que, étant donné que les embryons de toutes les espèces des vertébrés se ressemblent, c'est la preuve donc que chaque espèce a un membre commun. Sauf que ce monsieur Haeckel, pour arranger sa théorie, ce qu'il a fait, il s'est juste arrangé pour montrer que les embryons se ressemblent, alors qu'en fait, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ouais, exactement, il les a fait à la main. Maintenant, tout le monde sait que c'est une fraude. Tous les scientifiques admettent que ce dessin est faux. Seulement, ça se retrouve encore dans les livres de biologie. Et le pire, c'est que Haeckel lui-même a admis avoir fait l'erreur. Mais pour lui, ce n'était pas grave. C'est parce que tout ce qu'il voulait faire, c'était rendre la vérité plus vraie. Voilà. Les conséquences. Maintenant que l'homme peut se débarrasser de Dieu grâce aux théories de l'évolution et donne libre cours à ses pulsions, les envies les plus basses, le rendant finalement un esclave de lui-même, de ses propres désirs. Ce n'est qu'un animal. Continue aussi. Glorification de l'être humain qui se laisse aller à ses pulsions sans retenue et qui vit suivant son instinct. Les espèces qui suivent leur instinct, ce sont des animaux. Le problème, c'est que maintenant, par rapport aux stars et aux célébrités, on les voit faire tout ce qu'elles veulent, en profiter de la vie, et c'est ce que la société appelle bien, et on glorifie ces personnes. Pourtant, dans Genèse 1, 28, Dieu dit qu'on devrait avoir la domination sur l'espèce animale. Et finalement, tout ce que la théorie de l'évolution fait, c'est de nous rabaisser au niveau des animaux. Et on ne fait pas ce que Dieu nous a demandé de faire. maintenant les dangers de l'évolution théiste, ça amène en fait une conception de Dieu qui est complètement fausse, parce que la création progressive finalement admet que la mort et donc le péché existaient bien avant l'être humain tel qu'on le connaît maintenant. La Bible dit que Dieu est parfait, Dieu est saint, Dieu est omnipotent, Dieu est amour, vie et lumière, ce qu'il fait est toujours parfait. On continue avec les conceptions erronées. L'évolution théiste admet que la création était lente, que les six jours de création ne sont pas des jours littéraux. Et pourtant, la Bible dit, et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut. C'est clair que ça est arrivé tout de suite. Encore, ainsi il y eut un soir et un matin, un jour littéral. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela a paru. Encore une fois, le mot « yom » qui veut dire « jour » est répété plusieurs fois dans la Bible. Maintenant, dans la Genèse, le mot « yom » est toujours accompagné d'un chiffre. Et quand c'est ce cas-là, ça veut dire qu'on parle d'un jour littéral. On ne parle pas de plusieurs jours, on ne parle pas d'une période de jours, on parle d'un jour littéral. Dans la conception de l'évolution théiste, le seul espace alloué, encore le seul champ d'action qui est laissé à Dieu, est celui que la théorie de l'évolution ne peut expliquer. Donc quand les athées ont découvert l'ADN et se sont rendus compte qu'il y avait de l'information dedans, subitement, ils n'ont pas compris, ça ne fit pas dans la théorie de l'évolution qui fait que tout a été fait par mécanisme naturel. Donc à ce moment-là, certaines personnes qu'on appelle les créationnistes évolutionnistes vont dire « Ah, ben là c'est Dieu ». Avant, ça ne l'était pas, mais là, oui, parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas expliquer. Donc, c'est ce qu'on appelle « the God of the gap » en anglais, et en français, ça donne un Dieu bouche-trou. Il est là quand ça nous arrange. La Bible dit « Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient. Et pour qui nous vivons, il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. » Dénier des enseignements bibliques essentiels. Question. Qui sera protégé à la fin des temps durant les sept dernières plaies? Oui. Est-ce que vous avez vos Bibles? On va lire dans Apocalypse 7, verset 3. Je vais lire. Apocalypse 7, verset 3. « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Maintenant, question 2. « Qu'est-ce qu'on appelle le sceau de Dieu ?» Et bon, cela, on va lire dans Ésaïe 8, verset 16. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Maintenant, question 3. Où trouve-t-on dans la Bible un verset contenant... Ah oui, j'ai oublié de montrer quelque chose. Qu'est-ce que le sceau... J'ai mis un exemple de sceau. Et les sceaux contiennent trois éléments. Le nom, le territoire et ainsi que le titre. Donc, question 3. Où se trouve dans la Bible un verset contenant les trois éléments d'un sceau? Qui serait le sceau de Dieu. Donc c'est dans Exode 20, verset 11. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, Exode 20, le verset au sujet du sabbat, c'est en fait le sceau de Dieu, c'est ce qui va faire la différence à la fin. Maintenant, si on rejette les enseignements bibliques essentiels parce qu'on peut faire croire à la théorie de l'évolution, on voit à quel point ça peut être dangereux et pourquoi il est important d'expliquer aux autres qui ne connaissent pas la vérité en quoi, quels sont vraiment les enseignements de la théorie de l'évolution et si on y adhère, ce qu'on rate, c'est-à-dire la vie éternelle. Maintenant, le nouvel homme, est-ce que Dieu crée toujours aujourd'hui? On peut dire que oui, puisque, par exemple, quand on demande pardon à Dieu, on veut que le pardon soit accordé tout de suite. Ensuite, quand Dieu nous promet que si on lui donne notre vie, il va recréer en nous un nouvel homme. Maintenant, si encore une fois on adhère à la théorie de l'évolution, ou même évolution théiste, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas croire que Dieu va nous changer tout de suite, ou même pendant notre vie. Les conséquences, Dieu n'est plus tout puissant, donc à quoi ça sert d'aller le rechercher? Puisque ce n'est juste qu'un Dieu bouche-trou. Peut-on concilier foi et théorie liées à l'évolution? Je pense que non, ça c'est sûr. Les deux, même si on intègre Dieu dedans, c'est renier Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, ben, c'est tout ou rien. Ça me fait penser à justement ça. Même si on intègre Dieu dans la théorie de l'évolution, on renie complètement Dieu de toute façon. Parce qu'on n'accepte pas son vrai caractère. Dans la position de l'Église catholique, je vais lire tout ça, je trouve ça très intéressant. La discussion sur le sujet de l'évolution fut relancée quand l'archevêque de Vienne, Christoph von quelque chose, publia le 7 juillet 2005 dans le New York Times une tribune affirmant que l'on ne pouvait interpréter les discours de Jean-Paul II comme étant une reconnaissance de l'évolutionnisme. Le prédécesseur de Benoît XVI avait affirmé en octobre 1996 « La théorie de l'évolution est plus qu'une hypothèse ». Face aux adeptes du créationnisme, Benoît XVI avait apporté son soutien à Jean-Paul II. Quand le pape a dit cela, il avait ses raisons, car la question se pose « À quel niveau se situe la vraisemblance de la théorie de Darwin ?» Les créationnistes ne sont pas ceux qui croient en Dieu, que Dieu est le créateur de l'univers, ce que tout chrétien croit, sinon il n'est pas chrétien. Ce sont des sectaires qui prennent leur récit de la Genèse au pied de la lettre, d'où leur bourde scientifique. Par la suite, le cardinal Schönborn a pour sa part fait son mea culpa. Les premières pages de la Genèse ne sont pas une page de science, a-t-il martelé devant 7000 jeunes réunis au meeting annuel du mouvement Communion et Libération à Rimini en Italie. Il est donc juste et utile d'enseigner la science de Darwin, mais pas le darwinisme idéologique qui refuse l'existence d'un Dieu créateur. En d'autres termes, l'Église catholique adhère aux théories de l'évolution théiste. Si aucune conclusion n'a été tirée de cette réflexion de 3 jours, comme l'a confié à l'agence Reuters le père Joseph Fessiot, un jésuite ayant pris part aux discussions, le groupe a décidé, en accord avec le pape, de publier ces textes afin de montrer que les théologiens catholiques ne voient pas de contradiction entre leur croyance en la création divine et la théorie scientifique de l'évolution. 1844, une année très intéressante, puisqu'en 1844, le livre « Vestiges of the Natural History of Creation » a été publié, qui en fait était un prédécesseur au livre de Darwin, « The Origin of Species », et qui a commencé à faire vraiment grand bruit dans la société. Et en même temps, en 1844, c'est la grande déception qui a mené au mouvement adventiste. Donc au moment où Dieu a levé son armée, en même temps, en 1844 aussi, Satan a commencé à lever sa propre armée. L'alternative, que pouvons-nous faire maintenant? J'ai pris des écrits de l'éducation chrétienne d'Ellen White qui parle justement, je trouve ça très intéressant, de la science des sciences. Alors qu'est-ce qu'elle dit? La responsabilité de nos écoles est très importante car les intérêts sont importants. D'une manière particulière, nos écoles sont un spectacle pour les anges et les hommes. Une connaissance de la science de toutes sortes, c'est le pouvoir, et c'est dans le dessein de Dieu que la science de pointe soit enseignée dans nos écoles comme une préparation pour le travail qui doit préparer les derniers événements de l'histoire terrestre. La vérité est d'aller jusqu'aux derniers confins de la Terre par des agents formés pour le travail. Mais tandis que la connaissance de la science est une puissance, la connaissance que Jésus en personne est venu enseigner au monde était la connaissance de l'Évangile. La lumière de la vérité devait envoyer ses rayons lumineux dans les extrémités de la terre et l'acceptation ou le rejet du message de Dieu impliqué dans la destinée éternelle des âmes. Le plan du salut avait sa place dans les conseils de l'infini. L'Évangile est la révélation de l'amour de Dieu aux hommes et signifie tout ce qui est essentiel pour le bonheur et le bien-être de l'humanité. L'œuvre de Dieu sur terre est d'une importance incommensurable et c'est le but de Satan de le mettre hors de la vue et de l'esprit. C'est son but de provoquer des découvertes chez les hommes qui sont exaltés au-dessus de la sagesse de Dieu. Quand l'esprit est absorbé par les conceptions et les théories humaines qui excluent la sagesse de Dieu, on appelle cela de l'idolâtrie. La science, faussement appelée ainsi, a été exaltée au-dessus de Dieu, la nature au-dessus de son Créateur. Comment Dieu peut-il regarder une telle sagesse? Dans la Bible, le devoir de l'homme est défini. Salomon dit « Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est le devoir de l'homme ». La volonté de Dieu est révélée dans sa parole écrite et ce sont là les connaissances essentielles. C'est pour ça qu'elle l'appelle la science des sciences. Le plan du salut, c'est la science des sciences. C'est ce que nous devons étudier de prime abord. Pareil encore, un écrit d'Ellen White, l'étude de la Bible. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est comme un trésor contenant tout ce qui est essentiel pour parfaire l'homme de Dieu. Nous n'apprécions pas la Bible comme nous le devrions. Nous n'avons pas une bonne estimation de la richesse de ces trésors et nous ne réalisons pas la grande nécessité de chercher les Écritures par nous-mêmes. Les hommes négligent l'étude de la parole de Dieu afin de pouvoir poursuivre des intérêts mondains. On peut parler d'hédonisme ou de s'engager dans les plaisirs modernes. Certaines affaires triviales sont une excuse pour ignorer les Écritures données par l'inspiration de Dieu, mais toute chose de caractère terrestre devrait être mise de côté plutôt que cette étude de la plus haute importance qui nous permet de nous rendre sages pour la vie éternelle. La sagesse est dans la Bible. Et voilà. La sagesse, tout ce que nous devons savoir est dans la Bible et tout ce qui vient après est complètement accessoire. Mais est-ce que la science, c'est mal? J'ai sorti ces deux images, c'est le Time Magazine Is God Dead. C'est un magazine qui, lorsqu'il est sorti, a fait un énorme bruit parce que des gens se sont dit « Ok, Darwin a raison, donc Dieu est mort. » Et ils pensent, et beaucoup de personnes pensent qu'on ne peut pas assimiler science et Dieu. C'est soit on croit à la science, soit on croit en Dieu. L'étude de la nature. Chapitre 10 de l'éducation chrétienne. Pourquoi l'étude de la nature, c'est important? La majesté de Dieu couvre les cieux et sa louange remplit la terre. Habacuc 3, verset 3. Chaque élément de la création porte la marque de la divinité. La nature rend témoignage à Dieu. Les esprits sensibles au contact de l'univers, de ses miracles et de ses mystères, ne peuvent que reconnaître une puissance infinie à l'œuvre. Ce n'est pas d'elle-même que la terre nous prodigue ses dons et continue, année après année, sa course autour du soleil. Une main invisible ordonne le mouvement des planètes dans les cieux. Une vie mystérieuse pénètre la nature. Les innombrables mondes de l'immensité, l'insecte porté par la brise d'été, le vol de l'hirondelle, les jeunes corbeaux pleurant de faim, le bourgeon qui va éclore et la fleur qui donnera du fruit. Ce pouvoir qui agit dans la nature agit aussi dans l'homme. Ces grandes lois qui régissent l'étoile et l'atome gouvernent aussi la vie de l'homme. Ces lois qui règlent les battements du cœur, assurant au corps la vie, proviennent de la toute-puissance intelligence qui dirige l'âme. C'est de Dieu qui émane toute vie. C'est de lui seul que procède tout acte authentique. Pour chacune des créatures, les conditions sont les mêmes. Une vie qui vient de Dieu, une vie en accord avec la volonté divine. Transgresser ces lois physiques, intellectuelles, morales, c'est rompre avec l'ordre de l'univers, c'est introduire la discorde, l'anarchie et la ruine. La nature pour qui est attentif à ses enseignements rayonne. Le monde est un livre d'études, la vie est une école, l'harmonie de l'homme avec Dieu et la nature, la puissance universelle des lois divines, les conséquences du péché ne peuvent que marquer l'esprit et le caractère. Donc d'après ces écrits, on voit clairement qu'on peut avoir science et Dieu. L'étude de la nature, c'est-à-dire la biologie, la médecine, l'étude du corps humain, tout ça, c'est compatible. Maintenant, le sycomore, pour continuer l'argument sur l'étude de la nature, j'ai pris l'exemple du sycomore. Alors, c'est un arbre qu'on retrouve dans Luc 17, versets 1 à 7. Jésus a souvent utilisé les paraboles en lien avec la nature pour expliquer des choses qui nous concernent, nous. Alors, je vais lire à Luc 17, versets 1 à 7. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, « Je me repens, tu lui pardonneras. » Et là, les apôtres disent au Seigneur, « Oh, manque-t-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » En général, quand on parle de Jean 1, verset 17, 1 à 6, en général, on parle du grain de sénévé, mais moi, j'ai jamais entendu l'histoire d'explication par rapport au sycomore. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Jésus dit à ses disciples, il faut pardonner, il ne faut pas garder l'amertume. Ensuite, les disciples se rendent compte que c'est quelque chose de difficile et ils demandent à Jésus de leur augmenter la foi. Et là, Jésus lui en dit, vous diriez à ce sycomore, si vous aviez de la foi, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Alors voici un sycomore. Les sycomores ont des racines vraiment très très longues et qui descendent vraiment très très bas pour atteindre les nappes d'eau. Et c'est un peu la même chose avec ce qui, si on fait un lien avec l'amertume et le fait de ne pas pouvoir pardonner. C'est très difficile à déraciner parce que c'est ancré en nous. Ensuite, le sycomore, c'est un arbre qui pousse très vite et dans les milieux arides. La même chose avec l'amertume et le fait qu'on n'arrive pas à pardonner. La terre aride, c'est nous. C'est quand on manque de foi. C'est quand on n'est pas au point avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a utilisé le sycomore. Parce que ça pousse très vite et surtout dans les zones arides. Ensuite, le sycomore a un fruit. C'est une espèce de figue qui est très, très amère. Et quand les gens à l'époque le mangeaient, il fallait s'y prendre à plusieurs fois, il fallait vraiment ruminer. La même chose avec l'amertume. C'est quelque chose qu'on rumine sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Voilà. Je trouvais que l'histoire du sycomore, c'était quelque chose qui prouve que l'étude de la nature est importante et que la science peut être. On peut considérer Dieu et la science en même temps. Maintenant. Quand moi, j'étais à l'école, la théorie de l'évolution, c'est quelque chose qu'on nous a rabâché sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. On nous a toujours dit que c'était quelque chose d'ami et qu'il n'y avait pas moyen de réfuter. Et que si on adhérait à autre chose que la théorie de l'évolution, ça veut dire qu'on était bête. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, nous devons réfléchir par nous-mêmes. Nous devons être ceux qui pensent. Dieu ne nous a jamais demandé d'éteindre notre cerveau quand on arrive à l'église et puis quand on en sort, on rallume notre cerveau. Dieu veut tout de nous, notre cœur, notre intelligence. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Toujours en rapport avec la réflexion.
Something rather better than that.
Oh, well, please, 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 please,
Well, I'll just have to read it from the book. Not least, the God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction. Jealous and profligate, a petty, unjust, unforgiving control freak, a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser, a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.
So that's what you think of God?
Yeah.
How about if people believe in a God of infinite lovingness and kindness and forgiveness and generosity, sort of like the modern day God? Why spoil it for them? Why not just let them have their fun?
I don't want to spoil anything for anybody. I write a book, people can read it if they want to. I believe that it is a liberating thing to free yourself from primitive superstition.
So religion is a primitive superstition?
Oh, I think it is, yes.
So you believe it's liberating to tell people that there is no God?
I think a lot of people, when they give up God, feel a great sense of release and freedom.
Why do you think that? I mean, what's your scientist, what's your data?
I've had a lot of letters saying that. And
there are 8 billion people in the world. Professor Dawkins seemed so convinced that God doesn't exist that I wondered if he would be willing to put a number on it.
Well, it's hard to put a figure on it, but I put it off something like 99% against or something.
Why do you say it's 99% against, say, 97%?
No, you asked me to put a figure on it, and I'm not comfortable putting a figure on it. I think it's, I just think it's very unlikely.
Well, but you couldn't put a number on it?
No, of course not.
So it would be 49%?
Well, I think it's unlikely, but it's quite far from 50%.
How do you know?
I don't know. I mean, I put an argument in the book.
Well, then who did create the heavens and the earth?
Why do you use the word who? You see, you immediately beg the question by using the word who.
Well, then how did it get created?
Well, by a very slow process.
Well, how did it start?
Nobody knows how that started. We know the kind of event it must have been. We know the sort of event that must have happened for the origin of life.
What was that?
It was the origin of the first self-replicating molecule.
Right, how did that happen?
I told you we don't know.
So you have no idea how it started?
No, nor has anyone.
Nor has anyone else. What do you think is the possibility that intelligent design might turn out to be the answer to some issues in genetics or evolution?
It could come about in the following way. It could be that at some earlier time, somewhere in the universe, a civilization evolved by probably some kind of Darwinian means to a very, very high level of technology and designed a form of life that they seeded onto perhaps this planet. Now, that is a possibility and an intriguing possibility. And I suppose it's possible that you might find evidence for that if you look at the details of biochemistry, molecular biology. You might find a signature of some sort of designer.
Wait a second. Richard Dawkins thought intelligent design might be a legitimate pursuit?
And that designer could well be a higher intelligence from elsewhere in the universe. Well, but that higher intelligence would itself have had to have come about by some explicable, or ultimately explicable, process. It couldn't have just jumped into existence spontaneously. That's the point.
So, Professor Dawkins was not against intelligent design, just certain types of desires, such as God.
So the Hebrew God, the God of the Old Testament, he doesn't exist in your view?
Certainly, I mean, that would be a very unpleasant prospect.
And the Trinity of the New Testament?
Nothing like that.
Do you believe in any of the Hindu gods?
You asked such a question.
You don't.
How could I? Why would I, given that I don't believe in any others?
You don't believe in the Muslim God?
No. Why do you even need to ask?
Well, I just wanted to be sure. So you don't believe in any god anywhere?
Any god anywhere would be completely incompatible with anything that I said in
I just wanted to make sure you don't believe in any god anywhere.
No.
What if you, if after you die, you ran into God? He says, what have you been doing, Richard? I mean, what have you been doing? I've been trying to be nice to you. I gave you a multi-million dollar paycheck over and over again with your book, and look what you did.
Bertrand Russell was at that point put to him. He said something like, sir, why did you take such pains to hide yourself?
But if the intelligent design people are right, God isn't hidden. We may even be able to encounter God through science, if we have the freedom to go there. What could be more intriguing than that?
Donc dans la vidéo, il y avait Richard Dawkins, c'est un des athées les plus connus, la même trempe que Christopher Hitchens. Et de l'autre côté, il y avait Ben Stein. Ça vient d'un documentaire qui s'appelle Expelled, c'est très intéressant à regarder. Et ce qui, dans ces 6 minutes de vidéo, on voit très clairement que les athées, même si c'est, ils font partie des plus connus, même s'ils ont soi-disant tous les arguments, on se rend compte que les arguments sont faibles et qu'ils peuvent donner des chiffres comme ça. Il a donné 99% de chance pour que Dieu n'existe pas. Juste comme ça, parce que ça l'arrange de dire ça. Et on voit bien que ça l'arrange de dire ça, parce qu'il n'aime pas Dieu. Il a donné toute une liste de qualificatifs pour Dieu dès le début. Et donc, évidemment, tout ce qu'il va faire par la suite, dans ses démarches scientifiques, c'est de prouver que Dieu n'existe pas, parce que ça l'arrange comme ça. Alors, quand je dis indignez-vous, sans agressivité bien sûr, mais quand vous entendez à l'école ou quand vous entendez des personnes qui se disent scientifiques qu'il y a des arguments pour la théorie de l'évolution, il est de votre devoir, c'est de notre devoir, de se défendre et de montrer les arguments bibliques qui prouvent que Dieu existe et qu'il aime tout le monde et que la vie humaine a un prix. Une citation de Bertrand Russell que justement Richard Dawkins a citée dans la vidéo, qui dit « Je ne sais jamais si je dois dire que je suis un athée ou un agnostique. C'est une question très difficile et je crois pouvoir dire que certains d'entre vous ont été troublés par elle. En tant que philosophe, si je parlais à un public purement philosophique, je dois dire que je devrais me décrire comme un agnostique car je ne pense pas qu'il y ait un seul argument décisif par lequel on peut prouver qu'il n'y a point de Dieu. » Lui aussi, c'était quelqu'un, il est mort maintenant, mais c'était un athée très connu et qui s'est toujours battu contre l'existence de Dieu et lui-même admet qu'il n'y a aucun argument valable pour prouver que Dieu n'existe pas. Donc voilà, par rapport à tout ce qui a été dit et qui va se dire encore cet après-midi, c'est important de savoir se défendre et c'est aussi important d'être fier d'être chrétien. Dieu nous a donné la vie. Dieu nous donne des secrets et des connaissances qui sont extrêmement valables pour nous et qui nous permettent de vivre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Vas-y.
Si je comprends bien, le monsieur Dawkins dit ce qu'il écrit, tout ça, c'est un peu passé à l'avant jusqu'à l'époque de Dieu.
C'est ça.
Jusqu'à l'époque de sa vision. Puis comme on a vu au début, tu disais que le dessin qui se retrouve dans nos cours de biologie est faux. Puis on réalise qu'il y a un grand manque des preuves scientifiques qui peuvent soutenir la thèse de Darwin. Est-ce qu'on peut en déduire peut-être que pourquoi il y a autant de personnes qui adhèrent à cette théorie-là, c'est parce que aussi ça les arrange finalement.
Tout à fait.
Donc c'est encore une raison davantage de ne pas se fâcher quand ça arrive et puis de comprendre que si c'est vraiment si Dieu existe en fait, c'est la majorité des actions qu'on pose sont.
Justement, la Bible, Dieu explique cela à la Bible dans le psaume 10 et le psaume 14, où il dit l'insensé qui a son cœur n'a point de Dieu. Donc, je suis tenu à un insensé sur ce point, je ne savais pas. Et la présentation qu'on a faite tout à l'heure, elle dit que c'est les preuves de l'existence de Dieu. Donc, même la Bible, la personne a fait l'insensé.
Aussi, on peut lire dans Romains 1, quand Romains 1, verset, à partir du verset 19, qui dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc, conclusion, on ne peut pas échanger sa foi contre des théories humaines. Ça ne vaut vraiment pas le coup et ce n'est pas une preuve d'intelligence. Donc, il ne faut pas hésiter à se défendre, il ne faut pas hésiter à se renseigner et il ne faut pas hésiter à faire connaître des choses aux personnes qui sont autour de nous. C'est notre devoir. Voilà, merci d'avoir assisté à ma présentation. Amen.